France Inter.
Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. Sécurité devra rimer avec rareté. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine ne sera pas une grande fête populaire. 326 000 spectateurs, pour la plupart sur invitation. L'Europe met au pas les géants d'Internet. Le Digital Market Act modère leur position dominante. On verra ce que ça va changer pour nous, les utilisateurs. Dans ce journal aussi, l'égalité homme-femme sur les salaires peut mieux faire. L'écart est encore de 23% en moyenne. Et le boléro de Ravel avec sa syncopée, son histoire sort au cinéma.
Et au micro de Sonia De Villers dans 20 minutes, c'est aujourd'hui la militante congolaise pour les droits des femmes, Justine Masika Biamba.
France Inter.
Un ballet nautique grandiose sur 6 km entre Austerlitz et le Trocadéro à Paris, mais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sera réservée à quelques privilégiés. 222 000 sur invitation et 104 000 spectateurs payants sur les quais. On est loin du rêve éveillé de la mairie de Paris et de ses 2 millions de spectateurs le long de la Seine. Au nom de la sécurité, il a fallu revoir la jauge à la baisse. Alors qui seront ces invités? Eh bien, ils seront choisis par l'État, les collectivités publiques et le comité d'organisation. Un système de partenariat, Clara Lecoq-Réal, qui satisfait les principaux dirigeants.
Le ministère de l'Intérieur évoque d'abord un souci de sécurité, car il est plus facile, dit-il, de passer au crible les gens s'ils arrivent en groupe semi-organisé. Le comité d'organisation des Jeux, quant à lui, va pouvoir contenter ses partenaires qui ont mis beaucoup d'argent sur la table et qui seraient ainsi récompensés en ayant un quota de places réservées. Idem pour les collectivités locales. Mathieu Hanotin, maire socialiste de Saint-Denis, en banlieue parisienne.
C'est une demande partagée par tous les maires concernés de Seine-Saint-Denis pour que cette magnifique fête, dont on veut qu'elle soit la plus populaire possible, puisse réellement profiter à toutes et tous et qu'on ne soit pas finalement dans une logique du premier arrivé, premier servi. Mais qu'on puisse bien garantir que des publics cibles qu'on choisit de toucher puissent se voir attribuer un billet gratuit pour assister à cette cérémonie.
Il demande donc un certain nombre de places réservées.
Plusieurs milliers, dizaines de milliers. Le ministre, quand il est venu il y a un petit mois en Seine-Saint-Denis, il s'est engagé devant tous les élus pour faire en sorte que cela soit possible. Et donc, je suis convaincu qu'on va y arriver.
Mais en cas de gros volume, dit-il, il faut nous prévenir tôt. Nous souhaitons avoir l'intégralité des personnes inscrites pour la fin du mois de mai, a déjà répondu hier Gérald Darmanin.
Plus vite, plus haut, plus fort, vous connaissez la devise des JO. On pourrait y ajouter cette fois plus vert. Ainsi, l'électricité consommée, Delphine Simon, devra être 100% renouvelable. EDF vient de présenter sa feuille de route.
Ni fioul, ni gaz et pas de nucléaire. L'électricité fournie pour les JO sera, à la demande du comité olympique, 100% renouvelable. EDF va produire du courant grâce notamment à des panneaux solaires sur le toit de la gare routière des athlètes. Franck Chauveau pilote ces innovations.
C'est une nouvelle technologie qui se déroule en fait comme de la moquette. Donc on peut déplacer l'ombrière et déplacer l'installation solaire photovoltaïque en même temps pour qu'il y ait de l'autoproduction d'électricité et de l'autoconsommation sur place.
À travers toute la France, huit parcs éoliens et solaires vont fournir de l'électricité verte 100% renouvelable. Ça parle à l'athlète paralympique Alexandra Nouchet.
Être associée à cet engagement, ça me fait vraiment plaisir. Pour nous, en tant que sportif et athlète du team, c'est une fierté.
Pas facile de contraindre EDF, sponsor officiel, à ne pas faire la promotion du nucléaire. Le comité olympique a tenu bon. Chez EDF, on espère que les prochains JO d'hiver 2030 se feront avec l'atome.
Delphine Simon, il aura raté le grand chelem, mais Donald Trump se réjouit de son Super Tuesday. Le candidat républicain est pour l'instant en tête dans une douzaine d'États. Si l'on en croit les médias américains, les résultats arrivent peu à peu. Sa rivale Nikki Haley a gagné dans le Vermont. De son côté, Joe Biden, qui a lui aussi remporté dans son camp la majorité des États en jeu, met en garde. Trump est déterminé, dit-il, à détruire notre démocratie. Joe Biden qui n'apprécie pas de se faire bousculer par Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de troupes américaines au sol en Ukraine. Ce n'est pas ce que demande le président Zelensky. Une réponse cinglante. En République tchèque, le président français a exhorté hier de nouveau les alliés à ne pas être lâches face à une Russie inarrêtable, dénonçant un esprit de défaite.
Il est 7h34, ils occupaient le marché sur nos portables et tablettes sans toujours respecter la concurrence.
Six géants du net, de Google à TikTok en passant par Meta, avaient jusqu'à aujourd'hui pour se conformer à un nouveau règlement européen, le Digital Market Act, un texte qui vient bousculer leur domination dans ce secteur. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour.
Concrètement, que va changer ce règlement pour nous, les utilisateurs ?
Eh bien, il nous permet d'avoir plus de choix. Fini les applications installées par défaut sur nos smartphones et dont on ne peut pas se débarrasser. Plus obligé de passer par l'App Store sur iPhone ou le Google Play sur Android pour en télécharger. Ces applications peuvent également désormais faire payer directement leurs abonnés sans passer par le système du constructeur. Certains de ces changements sont déjà visibles. Google, par exemple, a restreint l'affichage de Maps dans ses résultats de recherche et ne met plus en avant ces services qui permettent de trouver un hôtel ou un billet d'avion pour éviter d'être accusé de profiter de sa position dominante.
C'est donc un bouleversement pour les géants de la tech qui ne sont pas tous de bonne volonté.
Oui, ce sont des contraintes inédites. Au total, une vingtaine de services ultra populaires sont visés. TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, les navigateurs Chrome ou Safari, les systèmes iOS et Android, dès lors qu'ils affichent plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. Apple, qui a fait son succès sur un écosystème fermé, est l'une des marques les plus récalcitrante et fait tout pour décourager les développeurs qui veulent sortir de son giron en leur imposant une taxation très sévère. Mais cette attitude peut avoir des conséquences. Les mauvais élèves risquent désormais une amende jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial.
Et ce texte européen est déjà contesté par Apple, Meta et TikTok devant la justice européenne. Les banques françaises prêtent et investissent toujours dans les industries du tabac. C'est la conclusion d'un rapport de l'organisme d'investigation Profundo que France Inter vous révèle ce matin. Depuis 2018, plus de 5 milliards de dollars de crédits ont été accordés aux cigarettiers, alors que ces investisseurs s'étaient engagés il y a quelques années à être vertueux. Chaque année en France, 75 000 morts sont attribuées au tabac. On y revient dans le journal de 8 heures. Les écarts de salaire hommes-femmes, c'est un peu l'histoire du verre d'eau à moitié plein. D'après l'INSEE, l'écart s'est réduit de 10 points en 10 ans, entre 2002 et 2022. À moitié vide, la différence atteint encore 23% en moyenne et le rééquilibrage Claire Chaudière semble stagner.
Avec 1665 euros net par mois, le revenu salarial moyen des femmes dans le secteur privé reste inférieur de 23,5% à celui des hommes, 2175 euros mensuels. Un écart qui s'explique en partie par des inégalités de temps de travail, plus de temps partiel et de contrats courts pour les femmes. Mais même à temps de travail identique, la différence se maintient à 14,9%. On retrouve là l'enjeu du plafond de verre et des types de postes occupés, analyse l'INSEE. Enfin, dernier niveau de comparaison, à poste équivalent, même profession, même employeur, l'écart est cette fois de 4%. Des inégalités qui, après avoir fait du surplace entre 1995 et 2001, ont baissé de manière quasi constante ces 20 dernières années. Mais le rééquilibrage via les temps de travail, lui, s'est arrêté en 2016 et stagne depuis. À noter que sur l'échelle des salaires, si les femmes représentent plus de la moitié des personnes qui gagnent autour du SMIC, lorsqu'on atteint les plus hautes rémunérations, le top 1%, elles ne représentent plus qu'un petit quart des effectifs.
Elle a déjà fait sauter le plafond de verre. Yaël Braun-Pivet, qui saluait lundi l'inscription dans la loi de la liberté garantie d'avorter, première femme à présider l'Assemblée nationale et qui imprime sa marque sur l'institution. Elle a ouvert le Palais Bourbon aux visiteurs et sanctionné plus que quiconque les députés à la moindre faute. Laurence Perron.
Indéniablement, le pari est réussi. Si elle mène l'institution avec un gant de velours, elle possède aussi une main de fer. L'opposition de gauche l'accuse de sanctionnite aiguë.
Non, 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 vous vous croyez où ?
106 sanctions de députés depuis juin 2022 contre 39 entre 1958 et 2021. Antoine Léaumont, député insoumis et sanctionné.
Moi, je suis très en colère parce qu'elle m'a mis une sanction pour avoir rappelé que le Rassemblement National, c'était les descendants de Vichy, très partisane, point barre.
Mais le principal reproche de l'opposition aujourd'hui, c'est l'agenda très vide de l'Assemblée nationale. La responsabilité en incombe au gouvernement, mais l'écologiste Julien Bayou l'invite à contourner l'obstacle.
Je pense notamment à la fin de vie, puisque le gouvernement nous balade. Déposons ensemble une initiative transpartisane pour enfin légiférer sur le sujet fin de vie.
La marche contre l'antisémitisme co-organisée avec le président du Sénat, elle jouit d'une petite notoriété. Il se murmure qu'elle pourrait avoir des ambitions en 2027.
C'est une première femme présidente de l'Assemblée nationale.
La porte-parole du groupe Renaissance, Éléonore Carrois.
Qui a montré aussi qu'elle était capable de composer avec une assemblée compliquée. Donc oui, moi je lui souhaite en tout cas un destin politique.
L'ancienne avocate qui a fait ses classes au Parti Socialiste pourrait effectivement cocher la case macroniste de gauche, moins encombrée que celle de droite.
Et vous aurez l'occasion d'en parler avec elle à 8h20, Nicolas, puisque oui. Yaël Braun-Pivet sera l'invité du grand entretien. Un budget à l'équilibre en 2020. 2032, c'est ce que vise Bruno Le Maire. Celui de cette année sera au-delà des 4,9% de déficit, explique le ministre de l'Économie ce matin dans les colonnes du journal Le Monde. De quoi justifier ces 10 milliards d'euros d'économies à suivre. Rendre le travail en crèche plus attractif, le gouvernement veut inciter les crèches à augmenter de 150 euros net leur personnel. Une hausse qui serait financée aux deux tiers par la Sécurité sociale. 150 000 personnes sont potentiellement concernées. Football, un doublé de Mbappé et le PSG file en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens attendaient ça depuis 3 ans. Ils ont battu la Real Sociedad 2-1 à San Sébastien. Au passage, Mbappé et l'entraîneur Enrique se sont donné une accolade appuyée, signe ostentatoire de détente. De son côté, le Bayern s'est qualifié aux dépens de la Lazio Rome. Enfin, si je vous dis boléro, vous penserez peut-être à la danse traditionnelle espagnole, mais plus sûrement au chef-d'œuvre de Maurice Ravel. On dit qu'il y a une interprétation toutes les 15 minutes dans le monde. Aujourd'hui, Boléro est un film signé Anne Fontaine qui sort sur les écrans. Il raconte, Stéphane Capron, les années de succès du compositeur français avec en fil rouge la genèse de son chef-d'œuvre.
Le Boléro est une commande de la danseuse Ida Rubinstein, ancienne égérie des ballets russes. Elle demande à Ravel de lui composer un ballet de caractère espagnol.
La sensualité du sud, le parfum des fleurs vénéneuses. Une Carmen moderne, quoi.
C'est la bonne de Ravel qui lui met dans la tête cette chanson populaire.
Ah oui, c'est frais, c'est très anglais, c'est charmant.
De là, il va écrire une mélodie qu'il répétera 17 fois et devenir l'un des plus grands succès de l'histoire de la musique, même si Ravel n'a pas du tout apprécié le ballet d'Ida Rubinstein, interprété par Jeanne Balibar.
J'ai le regret considérable de vous demander de sortir, monsieur Ravel.
Pas la peine de demander.
On se demande comment ça a pu sortir de vous. Mais il se trouve que le Boléro est une œuvre charnelle, la chair, vous connaissez. Non, bien sûr, vous êtes aveugle à tout ça. Et sourd à vous-même en plus.
Mais de chair, il en manque beaucoup dans ce film qui se traîne et qui est à mille lieues de l'incandescence du Boléro, l'œuvre d'un génie, mais d'un homme que l'on découvre fragile, sous les traits de Raphaël Persona, tourmenté par une maladie cérébrale incurable dont il décédera en 1937.
Et on peut aussi en profiter pour réécouter cette ligne musicale ensorcelante avec son rythme à 3 temps.
Merci Christelle Rebière. Et l'ensorcellement à 2 temps, c'est Yael Gauze et Dominique Seux.